Bon, bah d'abord, merci de l'invitation. Hein. Merci de l'invitation de la Fondation. C'est un endroit où je suis ravi à chaque fois de venir. C'est un plaisir d'être au bord du lac et dans cet endroit calme. Et puis surtout, cet endroit propice à la réflexion et aux échanges. Donc, je vais vous faire une brève présentation. Mais l'idée, d'abord, c'est que vous puissiez m'interrompre si vous voulez au cours de la présentation. Mais c'est surtout d'essayer de donner quelques points de repère et puis d'ouvrir le plus rapidement possible à vos questions et à la discussion. La première chose, peut-être, alors je peux utiliser ça. Donc la première chose que je voulais dire, c'est que les sujets dont on va parler vont bien sûr être un petit peu des sujets de neurosciences, mais surtout des représentations qu'on se fait des neurosciences. Vous vous rappelez que Magritte avait fait cette série sur la trahison des images, dans laquelle il avait mis cette figure qui était « ceci n'est pas une pipe ». En fait, effectivement, ceci est l'image, la représentation d'une pipe. Eh bien, on peut dire de la même façon que ceci, qui est pourtant un cerveau anatomique prélevé sur une personne, ou les différentes images qu'on peut acquérir à partir de l'imagerie médicale, que ce soit ici le connectome, c'est-à-dire la manière dont aujourd'hui, avec de l'imagerie de type IRM, résonance magnétique cérébrale, on peut mettre en évidence la connexion entre différentes aires du cerveau, par exemple ici votre cortex frontal, et puis ici des aires plus associatives. Ici, on a les régions qui vont commander la motricité. Ici, on a des régions qui vont être essentiellement impliquées dans la sensibilité. Ici, on va avoir le lobe temporal, dans lequel on va avoir l'intégration de la mémoire, et puis donc ces différentes régions connectées. Donc là, je vous montre des images qui sont des vraies images acquises sur un vrai cerveau. Ceci est un vrai cerveau, mais ce dont on va parler, c'est les représentations que nous nous en faisons à partir des connaissances que nous avons aujourd'hui, qui sont déjà non négligeables, mais qui sont incroyablement minimes, incroyablement faibles, au regard de ce que nous aurons à apprendre et à découvrir de notre cerveau. Et donc, il faudra se méfier d'une pseudo-connaissance ou d'un pseudo-savoir, qui est un savoir parcellaire, d'un savoir limité dans l'état actuel des choses. Alors, une fois qu'on a dit ça, on inscrit une démarche éthique dans le fait que, comme l'a dit Paul Ricoeur, à l'affirmation par soi de la liberté, et je vous rappelle que la liberté de recherche, c'est une des libertés fondamentales qu'a affirmé la Déclaration d'indépendance américaine, qu'a affirmé la Déclaration des droits de l'homme lors de la Révolution française. Donc, le droit à la connaissance, le droit à développer des connaissances en s'inscrivant en contradiction avec le dogmatisme, c'est une liberté fondamentale. Mais cette liberté fondamentale, elle doit s'articuler avec la liberté de la société, et non seulement s'articuler, mais contrairement à la vision « ma liberté s'arrête là où commencent celles des autres », comme le dit Ricoeur, c'est une vision inclusive de la liberté. Quand je pense ma liberté, je dois penser celle des autres comme incluse et comme devant se développer dans cette liberté. Et puis ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'un neurologue ou pourquoi est-ce qu'un directeur de centre de recherche en neurosciences vient parler de questions de société? À quel titre? Au fond, le cerveau, c'est un organe comme les autres. Alors, on peut parler des maladies du cerveau ou on peut parler du coût des maladies du cerveau, on en reparlera tout à l'heure, mais pourquoi venir discuter de questions éthiques spécialement pour les neurosciences? Ben, je dirais que, en prenant une illustration sur un cas pathologique célèbre, qui est celui de Phineas Gage, au milieu du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, on a basculé d'un cerveau dont on pouvait encore, même si depuis l'Antiquité, on sait que c'est le siège de la pensée et des interactions sociales, on est passé dans l'évidence. Phineas Gage est un contremaître des chemins de fer américains, donc il construit la ligne transpacifique, et à un moment, il lui arrive un accident terrible. Il y a une barre à mine qui saute sur un explosif et qui lui traverse le crâne, ici, dans la région frontale. Alors, c'est une baramine qui fait à peu près la taille de mon petit doigt et qui va passer à peu près au niveau du nez et ressortir au milieu du crâne. Et il va survivre. Et non seulement il va survivre, mais 3 semaines après, il déambule dans les rues de San Francisco. Mais 3 semaines avant, il était un contremaître modèle, apprécié, il encadrait des ouvriers, etc. Et 3 semaines après, il devient une personne totalement désinsérée socialement, qui urine dans la rue, qui se met à boire dans les bars. Sa personnalité a été totalement modifiée par l'accident. Et on va découvrir que dans les choses qui ont été faites, et pour revenir à cette image, si on regarde ici, la baramine est passée comme ça. Elle a traversé ces régions frontales qui sont des régions d'association avec les comportements sociaux. Et un des travaux que j'ai développé avec François Lhermitte pendant que je faisais ma thèse, c'était de voir que justement des personnes qui ont des altérations de ces régions, accidents vasculaires ou tumeurs cérébrales, se mettent à avoir un comportement complètement désinséré du comportement social, sont indifférents. C'est ça qui malheureusement a permis à certains psychochirurgiens de développer la lobotomie. Ils collectionnent tout, vous pouvez leur mettre n'importe quel objet devant eux, ils deviennent adhérents à l'environnement, ils amassent tout, ils font tomber, parce que chaque objet que vous leur tendez, ils le prennent, vous leur demandez pourquoi ils le prennent, ils ne sont pas capables, ils adhèrent complètement au moment, à la réalité. Donc, nous avons bien dans notre cerveau un certain nombre d'éléments, un certain nombre de mécanismes qui nous permettent d'être des individus sociaux. À partir de là, quand on parle de neuroéthique, on a deux branches claires qui vont se développer. L'un qui va être l'étude dans le cerveau de ce qui fait de nous des agents moraux. Pourquoi sommes-nous des animaux sociaux ? Pourquoi nous comportons-nous d'une certaine façon vis-à-vis des autres ? Ça, c'est les questions des bases neuroscientifiques du comportement moral. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'autre aspect, c'est comment est-ce qu'il y a une éthique des neurosciences qui peut être une éthique soit de la pratique des neurosciences. Par exemple, dans nos laboratoires, on a des encadrements sur la manière d'utiliser l'expérimentation animale, de se comporter bien vis-à-vis des animaux. Et puis, il y a les implications éthiques des recherches et des travaux qui sont faits en neurosciences, que certains considèrent d'ailleurs comme de la neurophilosophie. Quel est l'impact social, éthique, philosophique, légal ? En ce moment, en France, nous sommes en train de réviser nos lois de bioéthique. Il y a des commissions, il y a des états généraux de la bioéthique qui viennent de se réunir. Et il y a toute une dimension des neurosciences sur l'encadrement bioéthique par la loi de certaines applications des neurosciences. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on discute de ces questions d'implication éthique des neurosciences. Alors, l'un des grands malentendus, à mon avis, c'est le problème du déterminisme. Déterminisme, c'est quelque chose qui est apparu, ou en tout cas a été défini pour la médecine basée sur les preuves au milieu du 19e siècle, par nos grands pionniers, par exemple Claude Bernard. Et Claude Bernard, dans l'introduction à la médecine expérimentale, dit du médecin qu'il exercera son influence sur les maladies dès qu'il en connaîtra la cause expérimentalement, c'est-à-dire le déterminisme exact. Comment on relie une cause à une conséquence ? Comment on arrive, grâce à la méthode anatomopathologique, c'est ce que Broca va faire avec l'aire de Broca, on voit une personne qui a une difficulté d'expression du langage, ensuite, en post-mortem, on découvre une aire du cerveau lésée et on fait la corrélation entre l'un et l'autre. Et ça correspond à ce que Michel Foucault dit de la médecine moderne dans la naissance de la clinique. On passe d'un 18e siècle où le médecin entrait et disait au patient « qu'avez-vous ?» à un médecin du 19e siècle qui rentre et qui dit « où avez-vous mal ?» Donc, il va commencer l'analyse sémiologique, découvrir les causes et pouvoir les relier à une pathologie. Pour le scientifique, faire du déterminisme, c'est trouver la chaîne ordonnée qui va de A à B et qui fait que certaines causes vont déclencher certaines conséquences et que systématiquement, quand on a A, on pourra l'associer à un effet. Et Claude Bernard dit encore, la critique expérimentale met tout en doute, c'est le fameux scepticisme scientifique, on ne doit jamais avoir de certitude, on a des vérités provisoires en fonction des connaissances qu'on a, et au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, on les remet en question, donc la critique expérimentale mettra tout en doute, excepté le principe du déterminisme, c'est-à-dire qu'on part du fait que si on observe des effets, il doit y en avoir des causes. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce que tout est fini et est-ce que tout est conclu? Eh bien non, bien au contraire, et je vous propose ce poème magnifique de Stéphane Mallarmé, qui a été écrit à la fin du XIXe siècle. Mallarmé n'était pas un neuroscientifique, mais il prend comme base, alors là c'est un très court extrait, hein, parce que le poème fait une vingtaine de pages, il prend l'exemple du dé. Et il n'y a rien de plus déterminé qu'un dé. Un dé, vous avez six faces, vous n'avez de possibilité pour un dé, quand vous le lancez, qu'il tombe sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, vous avez des contraintes parfaitement claires. Et si vous lancez le dé 1 million de fois, vous aurez statistiquement autant de 1, de 2, de 3, de 4 ou de 5. Et donc, vous pourrez avoir un déterminisme dur. Et pourtant, jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, un coup de dé n'abolira le hasard. Et sans être neuroscientifique, Mallarmé disait « veillant, doutant, roulant, brillant et méditant, avant de s'arrêter en quelque point dernier qui le sacre, toute pensée est un coup de dé ». On peut être dans un déterminisme dur, et pourtant dans la réalité des faits, avoir une possibilité qui, elle, est indéterminée, tout en étant dans un ensemble de contraintes. Et la réflexion que je vous propose ce matin, c'est de tenir compte de la réalité des contraintes que va nous donner cet organe magnifique qui est notre cerveau, tout en réalisant que ces contraintes n'impliquent pas, malgré le déterminisme qu'on peut avoir de certaines règles de base du fonctionnement de notre cerveau, un déterminisme qui nierait tout le hasard que représente notre histoire, nos relations sociales. Et donc, nous ne nous enfermons pas dans des querelles stériles qui opposeraient certaines connaissances scientifiques à certaines perceptions sociales ou culturelles. Alors, une fois qu'on a dit ça, en quoi les neurosciences bouleversent notre façon de concevoir ce que nous sommes et je vous le donne comme petit teasing pour la fin. En quoi nous verrons qu'un cerveau humain, ça n'existe pas. Retenez un peu cette affirmation osée. Alors, depuis maintenant 35 ans, on sait que la plupart de ce que nous faisons, la plupart de nos actions, sont des actions inconscientes. Et certains ont voulu y voir une négation de notre liberté ou un déterminisme justement dû. Alors depuis les expériences de Libet, on sait que nos décisions, par exemple, ne sont pas conscientes. Elles sont prises quelques centaines de millisecondes, voire 1 à 4 secondes, avant que nous ayons conscience de ce que nous avons décidé. Il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites et refaites pour montrer que la plupart de nos actions sont hors de notre champ de conscience. Vous êtes en train de m'écouter, je l'espère, et pourtant, vous êtes assis, vous ne tombez pas de votre chaise, ce que vous feriez si vous étiez endormi. Vous êtes en train de respirer sans chercher à savoir le rythme de votre respiration. Vous êtes plus ou moins confortable par rapport à la température de la pièce, en tout cas votre cerveau régule tout ça, etc., etc. Peut-être certains d'entre vous songent à ce qu'ils vont faire cet après-midi ou à dîner ce soir, ou les enfants ou petits-enfants qui seront reçus demain à midi. Tout ça, vous pouvez le faire en parallèle et de façon complètement inconsciente pour la plupart des choses. La conscience, c'est vraiment quelque chose par rapport à l'adaptation du moment dans des circonstances données. On pourra y revenir. Deuxième chose qui est importante, c'est que pour être conscient, il faut le vouloir. Des expériences, par exemple, qui ont été faites par une de mes collègues, Angela Sirigu, à Lyon, montrent que lors d'opérations neurochirurgicales, on peut réveiller les gens pour vérifier que la partie du cerveau qu'on va leur enlever avec la tumeur n'enlève pas une fonction importante. Et on peut, par exemple, bouger leurs mains droites. Ils sont réveillés, ils sont conscients. On bouge leur main droite, qui est sous le drap de l'opération. On leur demande, et on peut stimuler la région motrice que je vous ai montrée tout à l'heure pour faire bouger cette main droite. On stimule avec une électrode, vous inquiétez pas, le cerveau est complètement insensible. C'est l'organe de la sensibilité, mais lui-même est totalement insensible. Donc on peut mettre une petite électrode, stimuler le cerveau et faire bouger la main droite. On demande aux gens, est-ce que vous bougez votre main droite? Ils sont réveillés, ils sont conscients, ils ont leur sensibilité. Les gens répondent, je ne sais pas. On stimule une région qui est juste en arrière et qui est la région d'intentionnalité du mouvement. Et on demande aux gens, est-ce que vous êtes en train de bouger votre main? Et là, les gens répondent, oui, peut-être. On stimule les deux régions en même temps. Les gens disent, oui, ma main est en train de bouger. Pour avoir la perception d'un mouvement, même un mouvement stimulé, en état éveillé, il faut avoir une intentionnalité, il faut qu'il y ait une organisation des choses. Une région du cerveau ne travaille jamais seule. Percevoir une image, c'est au minimum une quarantaine de régions du cerveau qui sont activées. Quand on vous dit « telle région est impliquée dans », c'est un raccourci, c'est une abréviation. Tout votre cerveau travaille en permanence. Les différences qu'on voit en IRM fonctionnel, c'est plus 1% ou moins 1% de notre activité. Lors du sommeil, le cerveau diminue son activité au maximum de 30% par rapport à l'activité de veille. Et encore, dans certaines périodes, qui sont les périodes de sommeil paradoxal, l'activité énergétique est la même que celle qu'on a dans la période d'éveil. Votre cerveau consomme environ un quart à un tiers de votre énergie quotidienne, alors qu'il représente 2% de votre organisme. Donc, votre cerveau travaille en entier, avec de nombreuses régions d'association, et il travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout au long de votre vie. Toutes les histoires de « on ne se sert que de 5%, etc. » sont des bêtises. Et puis, le troisième point qui est essentiel par rapport à ce qu'on va discuter ensuite, c'est l'émotion. On est des cartésiens, surtout nous les Français, on pense que être humain, c'est être rationnel. Or, depuis que le système nerveux central existe, et tout particulièrement chez les humains, nous n'existons que à partir d'abord de nos émotions. Nous sommes d'abord en éveil grâce à nos émotions, et notre rationalité, elle vient se poser en balance ou en interaction avec nos émotions. Et nos comportements sont également déterminés par des émotions. Il y a une célèbre expérience qui a été faite en imagerie cérébrale avec un dilemme qu'on appelle le dilemme du trolley, qui est de sacrifier une personne pour en sauver cinq. On donne des histoires à des personnes dans une IRM, on leur propose qu'il y a des ouvriers qui travaillent sur une voie et puis un wagon fou qui va les écraser. Mais vous pouvez appuyer sur un aiguillage, détourner le wagon fou et le mettre sur une voie secondaire. Mais sur la voie secondaire, il y a un autre ouvrier qui travaille. Alors vous avez un choix à faire. Si vous appuyez sur l'aiguillage, vous en sauvez cinq, mais il y en a un qui est sacrifié. Si vous ne faites rien, il y en a cinq qui meurent. La plupart des gens réagissent très vite, appuient sur l'aiguillage et détournent le trolley. En fait, c'est une réaction très émotionnelle, très automatique. Alors maintenant, on vous propose la même chose, mais pour arriver au même résultat, il faut que vous précipitiez un ouvrier d'un pont, parce que cet ouvrier est très corpulent, et puis le fait de le précipiter va détourner le trolley. Mais là, il faut un engagement personnel, il faut que vous-même poussiez la personne. C'est toujours la même chose, c'est en sacrifier un pour en sauver cinq. Mais là, les gens sont complètement paralysé, la réflexion prend beaucoup plus de temps, il y a les zones émotionnelles qui sont encore plus enflammées avec des zones rationnelles qui sont en balance, et au bout de ce temps, la plupart des gens décident de ne pas le faire. Le résultat final est pourtant le même, mais la surcharge émotionnelle du deuxième cas de figure de l'engagement personnel par rapport au fait d'avoir à précipiter cet ouvrier dans l'histoire fait qu'on est bloqué. Donc notre émotion, notre émotionnalité, elle est essentielle à notre éveil, elle est essentielle à nos réflexions. Alors à partir de là, notre cerveau est un cerveau qui va construire un certain nombre de choses, et il y a des querelles qui sont des querelles simplement inutiles. Par exemple, la querelle de l'inné et de l'acquis. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu un cerveau ou tout organisme vivant pouvoir exister hors du monde dans lequel il existe. Je vous rappelle que la définition même de la biologie, c'est la nécessité d'une énergie pour maintenir la vie et donc de l'échange avec l'extérieur. Donc, un cerveau qui serait né sans environnement, ça n'existe pas. Et un cerveau dans un environnement sans qu'il y ait des facteurs intrinsèques, ça n'existe pas non plus. Donc, est-ce que notre cerveau est complètement déterminé sur le plan génétique? Ben oui, nous sommes des humains, on est un cerveau humain, on n'a pas un cerveau de chimpanzé, on n'a pas un génome de chimpanzé, donc un génome humain produit un cerveau humain. Depuis le zygote, depuis le premier œuf jusqu'à la naissance de l'enfant, jusqu'à notre mort, nous sommes des humains, on n'est pas autre chose. Donc bien sûr, il y a un programme génétique qui n'est pas un programme, qui est un possible génétique, qui a permis que nous soyons humains et pas des chimpanzés. Est-ce qu'il y a des propriétés intrinsèques du cerveau? La réponse est oui. Dès la naissance, ça c'est des expériences qui ont été faites par le groupe de Colette Steaia à l'université Paris-Descartes, dès la naissance, les nouveau-nés ont des propriétés de discrimination dans le temps et dans l'espace, de son, d'image. Donc il y a des propriétés intrinsèques du cerveau qui nous permettent de faire, par exemple pour le bébé, la différence entre 5 tons longs et 1 ton court, et puis 6 tons longs. Le bébé, dès sa naissance, discrimine, est capable de repérer un certain nombre de signaux dans son environnement. Il y a des facteurs intrinsèques à notre cerveau qui n'ont même pas besoin d'apprentissage. Ça remet, par exemple, en question toutes ces découvertes sur les neurosciences, le travail extrêmement intéressant et pertinent à son époque de Piaget, mais qui aujourd'hui est totalement remis en question par les découvertes des neurosciences. Et donc, c'est très important dans l'histoire de nos conceptions sur le développement du cerveau et sur l'éducation de voir ce que Piaget avait proposé, mais c'est inutile aujourd'hui de rester à quelque chose qui est simplement dépassé. Nous ne nions pas les propositions, mais aujourd'hui, il y a d'autres éléments, et Piaget lui-même, certainement, aujourd'hui, remettrait complètement en question ce qu'il avait fait pour tenir compte des connaissances nouvelles qui sont acquises. Est-ce qu'il y a un code dans notre cerveau, ce qu'on appelle le code neural? Et est-ce que ça remettrait en question complètement notre capacité d'être humain et d'avoir la maîtrise de nos idées et de nos sentiments? Oui, il y a un code neural, et aujourd'hui, avec un certain nombre d'expériences, on peut mettre en évidence ce code neural. On présente à des sujets d'expérience des images avec des dizaines de vues possibles, des scènes de lacs, par exemple, des scènes de ville, des scènes de campagne, des animaux, etc. On fait des bibliothèques d'images, et ensuite, avec des programmes d'apprentissage profond, de deep learning, on peut simplement, en regardant l'activité cérébrale, dire ce qu'une personne est en train de regarder comme image avec un pourcentage de succès très nettement supérieur au hasard. Donc, il est possible de détecter des activités cérébrales correspondant à, par exemple, la reconnaissance d'une scène urbaine par rapport à la reconnaissance d'une scène maritime, et d'arriver, entre guillemets, à lire dans les pensées. On ne lit pas dans les pensées, on lit dans l'activité du sujet. On peut même aller plus loin. le groupe de Susumu Tonegawa a soumis des souris qui avaient été modifiées génétiquement pour pouvoir exprimer un gène qui est un canal qu'on appelle la chaîne rhodopsine sous l'influence de l'activité de neurones. Et ils soumettent ces souris à un conditionnement à la peur. Ce conditionnement à la peur crée dans les circuits qui sont au niveau de l'hippocampe un certain nombre d'activités neurales qui vont se traduire par l'expression de cette protéine canal. Quelque temps après, on vient avec une fibre optique, on stimule l'hippocampe de ces souris et du coup, avec la lumière, on ouvre ces canaux. Et là, on observe chez la souris un comportement de peur qui correspond au comportement conditionné qui a été appris. Bien, c'est simplement que, grâce à la lumière, on a réouvert, on a redéclenché l'activité du circuit qui a été mis en place comme circuit de mémorisation de la peur. Donc, ça a été titré dans les journaux comme la possibilité d'activer des faux souvenirs, mais c'est simplement la mise en évidence que quand nous apprenons, quand nous mettons en mémoire, eh bien, nous modifions notre cerveau de telle façon à mettre en place un certain nombre de circuits qui permettent l'acquisition de la mémoire et que nous pouvons ensuite retrouver ces circuits. Donc notre cerveau, il a ses activités d'association. Alors quand je vous écris ici qu'il construit une illusion du monde, oui, ce que vous percevez, c'est ce que votre cerveau construit du monde qui vous entoure. Si notre vision, par exemple, était une simple caméra, eh bien nous devrions avoir au milieu de notre champ visuel deux trous noirs qui correspondent au nerf optique, à l'émergence du nerf optique. Et c'est ce qui se passe pour les taureaux, par exemple. Le toréador échappe à l'embrochement parce qu'il se met dans une certaine position, le taureau fonce et il s'écarte légèrement de telle façon à rentrer dans le trou aveugle du taureau et à échapper ainsi à la charge du taureau. Le taureau n'est pas idiot, s'il le voyait, il détournerait la tête. Mais les taureaux sont ainsi faits que en général, ils détournent pas la tête. Si le toréador se met de côté au dernier moment, s'il se met un peu trop tôt de côté, il se fait embrocher. Qu'est-ce que font nos yeux? Nos yeux, ils balayent en permanence les vues qu'on a devant nous, ça s'appelle le nystagmus. On acquiert un tas d'images en rafale. Et notre cerveau, à partir de ces images acquises, reconstruit une image qui est une image complète. Vous n'avez pas un trou noir, sauf malheureusement pour les personnes qui souffrent de DMLA. De la même façon, si je vous demande maintenant de fermer les yeux, il ne va rien vous arriver. Fermez les yeux un instant, vous allez voir, on fait une petite expérience. Et maintenant, les yeux fermés, je vous demande de quitter cette salle. Vous savez où se trouve la porte. Et pourtant, aucun d'entre vous n'a fait attention au trajet qui l'a conduit à sa chaise pour savoir, en cas d'évacuation, si vous auriez besoin de trouver la porte. Votre cerveau, encore une fois de façon complètement inconsciente, a construit une carte de votre environnement qu'il garde de façon provisoire et que vous permet à tout moment de vous orienter dans cet espace de telle façon à retrouver la porte si vous en aviez besoin. Toujours cette anticipation, ce besoin de prévoir pour votre cerveau le présent, c'est déjà du passé. Le cerveau émet en permanence un certain nombre d'hypothèses sur ce qui va arriver et votre état de conscience sert simplement à vérifier que ce que le cerveau avait émis comme hypothèse correspond à peu près à la réalité. Si tout d'un coup un dragon apparaissait au milieu de la pièce, là vous n'auriez pas anticipé, vous seriez complètement perdu et votre conscience serait complètement mobilisée pour vous adapter à l'imprévisible. Mais pour l'instant, vous êtes venu assister à une conférence dans une salle fermée et tout se passe à peu près comme votre cerveau l'a prévu, l'a anticipé. Et on se rend compte que quand on comprend une histoire, par exemple dans un livre, ou quand quelqu'un vous raconte une histoire, eh bien, vous la comprenez d'autant mieux que vous anticipez les événements qui vont arriver, la phrase d'après, la minute d'après, etc. Dans des récits pour enfants, par exemple, c'est important pour essayer de construire, par exemple, les programmes éducatifs. Et puis, notre cerveau, il passe son temps à humaniser le monde, et je vais m'arrêter après cela, parce qu'on peut faire des expériences, par exemple, le laboratoire d'Adolphe à Philadelphie a montré, ils ont trouvé, c'était une publication d'il y a quelques années, ils avaient trouvé un film d'animation d'essai des années 40, donc fait totalement dans un but de test, où il y avait des figures géométriques, deux ronds, un grand et un petit, qui rentraient et qui sortaient d'un rectangle, et puis un petit triangle qui lui aussi rentrait et sortait, et à certains moments les figures se mélangeaient, à d'autres non. Et on fait voir ces 2 minutes de ce film à des personnes et on leur dit après qu'est-ce que vous avez vu. Et la plupart des personnes racontent une histoire dans laquelle il y a un vilain grand cercle qui essaye d'avaler un petit cercle et puis un courageux petit triangle qui se met au milieu pour essayer de le protéger. Et vous faites voir le même film d'animation à des gens qui ont une lésion, accident vasculaire ou tumeur d'une région carrefour entre les régions d'association émotionnelle et rationnelle qu'on appelle l'amygdale, qui est située à peu près derrière la pommette, là. Et là, vous demandez aux gens qu'est-ce que vous avez vu comme scène. Et ils vous disent, bon, il y avait un grand cercle, un petit cercle, un triangle, ça rentrait, ça sortait, c'était un peu désorganisé. Ils décrivent la scène. Le film d'animation qu'ils ont réellement vu. Notre cerveau, il ne peut pas voir une scène, quelle qu'elle soit, sans y injecter de l'histoire humaine, sans y injecter quelque chose qui est de l'ordre de la projection de l'humain. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'un cerveau humain, ça n'existe pas. Un cerveau humain, c'est à la fois de l'intrinsèque, les possibilités qui nous sont données par le fait que nous sommes des humains et donc nous avons développé un cerveau aux potentialités humaines. Par exemple, il a pu être montré que, effectivement, chez des musiciens, certains musiciens, pas tous, mais certains musiciens professionnels, ont l'oreille absolue et que cette oreille absolue correspond à certaines activations dans le cerveau. Mais que bien évidemment la pratique d'un instrument développe d'autres régions du cerveau qui viennent en interaction avec ces régions de l'oreille absolue et qui permettent la pratique et d'ajouter à la note l'émotion associée à la note. On va passer sur cette diapositive qui vous donne quelques points de référence encore une fois sur le fait qu'à l'acquis que peut représenter l'intrinsèque de notre cerveau s'ajoute toute l'épigénèse, toute notre histoire qui nous sculpte, qui nous modèle, qui nous montre que notre cerveau répond à son environnement en stabilisant certaines régions, en développant d'autres, et qu'il faut aujourd'hui, comme le propose la philosophe Catherine Malabou, faire place non pas au dogmatisme, mais au réalisme, en partant des faits et en s'interrogeant sur ce que ces faits peuvent nous dire du monde réel dans lequel nous vivons. Voilà, je vais terminer en vous rappelant que Daniel Kahneman, qui a un prix Nobel, nous a montré à quel point nous sommes mauvais avec les statistiques. Je vous ai parlé tout à l'heure des coups de dés. Ce que nous observons en science, c'est ce qui se répète, donc ce qui statistiquement apparaît, en essayant de gommer le bruit biologique ou la variabilité entre observateur. Or, notre cerveau, il déteste l'incertitude, il lui faut des choses vraies, et il déteste la statistique, il est très mauvais en statistique. Vous avez une chance sur 1 million de gagner à la loterie, mais les gens continuent à jouer à la loterie. C'est pas rationnel. On est très mauvais en statistique aussi parce que notre cerveau accorde aux choses un poids, une valeur qui est différente. Je vous dis que vous venez de gagner 10 francs, à la loterie, vous êtes très content. Et je dis que si vous attendez demain, je vous en donnerai 11. Vous allez me dire, qu'à cela ne tienne, attendons demain. Je dis, bon, mais je vous propose d'attendre 1 mois pour vous en donner 11. Voilà, vous allez déjà dire, oh, peut-être que je vais prendre les 10 francs tout de suite. Pourtant, 11, c'est quand même un de plus. Et puis je vais vous dire, vous avez gagné 10 francs, mais dans un an, on vous en donne 11. Alors vous allez dire, non, donnez-moi tout de suite les 10 francs. Ça ne m'intéresse pas d'en avoir 11 en un an. C'est la même chose mathématiquement. C'est gagner 10% de plus. Et pourtant, la valeur que vous accordez à l'avoir de suite ou l'avoir dans un mois ou dans un an est complètement différente. C'est ça qui doit nous amener à ne pas tomber dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, la bête querelle du libre-arbitre contre le déterminisme. Ni l'un ni l'autre n'est encore relevant aujourd'hui. et faire attention à ce qui est présenté comme une vérité scientifique, mais qui n'est pas forcément une vérité sociale. Je vous montre ces images parce que elles ont été publiées dans un grand journal scientifique, Nature Neurosciences. Elles sont scientifiquement parfaitement relevantes et pourtant socialement inquiétantes. Voilà ce qui a pu être montré sur plus d'un millier d'enfants de la région de Los Angeles, étudiés en imagerie cérébrale. Et on voit que statistiquement, on a une excellente corrélation. Vous voyez que votre cerveau est attiré par cette ligne droite. On a une excellente corrélation entre le niveau d'éducation des parents et le développement de certaines régions cérébrales chez les enfants. Plus fort encore, entre guillemets, on a statistiquement sur ces 1000 enfants une bonne corrélation entre la taille de certaines de ces surfaces cérébrales et le niveau de revenu des parents. Mais ce que votre cerveau ne regarde pas, c'est cette dispersion des points. Vous voyez que cette ligne droite, elle est la valeur statistique sur 1000 enfants de cette immense dispersion où vous voyez que même sur les enfants des parents avec les plus bas revenus, vous avez la même dispersion des points que sur les parents aux plus hauts revenus. Et si je reviens sur la diapositive précédente, vous voyez que la dispersion ici, c'est-à-dire chaque point représentant un individu, est encore plus grande que la dispersion ici. Et vous avez vu que votre cerveau, il a regardé la ligne, il a regardé la valeur statistique sur 1000 enfants de ce qu'on peut déduire. Et il n'a pas regardé la réalité des faits, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, beaucoup plus subtile à analyser. Voilà, à partir de là, je vais m'arrêter parce qu'on a de nombreux défis dont on peut parler ensemble. Je vous propose quelques thèmes, les neurotechnologies qui se développent très rapidement, pour le meilleur et peut-être pour des choses inquiétantes. Ce qu'on appelle la neurologie prédictive, aujourd'hui on peut déterminer la maladie d'Alzheimer 20 ou 25 ans avant le premier symptôme. Qu'est-ce que ça représente pour nous? La manière dont notre environnement impacte sur notre cerveau, la manière dont les écrans modifient la façon dont notre cerveau fonctionne, on peut discuter de cela. D'autres connaissances qui peuvent influer sur des questions de ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroéducation. Est-il encore raisonnable d'enseigner à nos enfants sans avoir soumis à un certain nombre d'épreuves scientifiques, ou en tout cas de tests scientifiques, les différentes méthodes? Qu'en est-il du jugement moral ou de la responsabilité personnelle? Je vous ai donné le dilemme du trolley tout à l'heure. Voilà, on va peut-être essayer de répondre à ces questions. Et puis je vous donne la réponse à ma question de tout à l'heure. Un cerveau humain n'existe pas. Michel Foucault, dans son dernier cours, a essayé de travailler sur cette phrase du Phédon de Platon, c'est la mort de Socrate. Et au moment de la mort de Socrate, Socrate dit « Criton, nous devons un coq à Asclépios payer cette dette, ne la négligez pas. » Et dans la mythologie grecque, offrir un coq à Asclépios, c'est remercier de la guérison d'une maladie. Et Michel Foucault s'interroge, mais de quelle maladie est-ce que Socrate peut parler? Socrate, c'est le philosophe de la vie, c'est pas le philosophe de la mort. Il ne peut pas remercier Asclépios de boire la ciguë et de se donner la mort. Et dans une discussion que fait Michel Foucault, il va chercher dans un autre passage de Platon, dans le Criton, le moment où les élèves de Socrate, et Criton le premier, viennent proposer au maître de quitter Athènes, de fuir. Pour cela, Criton étant très très riche, il peut offrir cela. Et Socrate refuse parce que ça serait nier son enseignement et ça serait nier l'interaction avec ses disciples. On n'existe que dans le regard des autres, on est humain que dans le regard des autres. Depuis que nous sommes nés, depuis que nous avons croisé le regard de nos parents, puis le regard des personnes qui ont été autour de nous, nous sommes devenus humains à travers le regard des autres. Comme le dit Foucault, il n'y a d'instauration de la vérité, la capacité de dire le vrai sur soi, que dans une interaction avec l'autre, c'est-à-dire dans l'altérité. Si nos études sur le cerveau devaient nous conduire à une focalisation sur des cellules ou sur des réseaux de cellules et oublier que tout cela n'a de sens que dans l'histoire d'un individu et que cette histoire ne se sculpte que dans l'interaction qu'il a avec les autres, nous perdrions ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est sûrement pas l'objectif des neurosciences. Merci beaucoup.